RCF.
Ce dimanche, les chrétiens célèbrent la fête de la Pentecôte et c'est l'évangile de Jean qui est proposé à la méditation de chacun. Le plus spirituel des évangélistes nous offre de très profondes paroles, celles que Jésus adresse à ses amis juste avant sa passion. Dans un désir de les soutenir et de les conforter, Jésus leur promet une aide pour avancer, un défenseur pour faire face aux mensonges, mais aussi le souffle d'un amour indestructible. Pour commenter cet évangile, je reçois cette semaine Michel Kobik. Il est prêtre et jésuite au centre spirituel du Châtelard à Francheville. Nous écoutons la parole, chapitre 15, versets 26 à 27, et chapitre 16, versets 12 à 15.
Jésus disait à ses disciples : Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
Michel Kobik, l'évangile de Jean que nous avons lu est constitué de deux passages mis bout à bout, l'un appartenant au chapitre 15 et l'autre appartenant au chapitre 16. Alors resituons le contexte général dans lequel ce passage a lieu.
C'est un discours d'adieu, c'est un entretien de Dieu. C'est-à-dire que dans l'évangile de Jean, après le lavement des pieds, au chapitre 13, et avant l'arrestation de Jésus au chapitre 18, l'évangéliste place trois entretiens d'adieu de Jésus à ses compagnons. Alors c'est un genre littéraire qu'on trouve dans la Bible, quasiment tout le livre du Deutéronome est sur ce modèle-là. Moïse qui fait un long discours d'adieu à ceux qui l'a conduit jusqu'au bord du Jourdain, etc. Alors là, c'est pareil.
Oui, donc les évangélistes sont pétris de ces textes-là.
Exactement. Voilà.
Et là, on a un Jean ou une école joannique qui écrit quand exactement? Environ 80 ans après la résurrection?
Probablement dans ces eaux-là. En tout cas, avant la fin du 1er siècle.
Est-ce que c'est dans un contexte de persécution? Parce qu'il va être question de la haine du monde.
Tout à fait. Alors, le contexte de persécution, il précède l'écriture de l'évangile. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que cet entretien d'adieu, il est situé juste avant la passion, juste avant l'arrestation et tout le récit de la passion. Avec le porche d'entrée qui est le chapitre 13 du lavement des pieds, là, on est dans un contexte de passion. C'est-à-dire, comment le don de l'Esprit est donné aux disciples de Jésus dans un contexte de difficultés, d'épreuves, alors peut-être de persécution déjà à ce moment-là, je ne sais pas trop, mais en tout cas, certainement, le don de l'Esprit ne vient pas dans la facilité, quoi.
Oui, juste avant notre passage, il est question de la haine du monde, face à laquelle les disciples devront faire face. Donc, le monde peut-être dire ce que ça représente là, parce que c'est souvent employé chez Jean, il y a deux acceptions de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire, le monde ?
Le monde, c'est le monde dans lequel nous vivons d'abord. C'est le monde des humains ordinaires, avec la dimension politique, économique, sociale et aussi religieuse. Ils appellent ça le cosmos, dans le grec. C'est-à-dire c'est cet ensemble à l'intérieur duquel les humains vivent et s'organisent selon des lois, alors c'est un monde qui n'accueille pas d'emblée aisément une parole qui veut le faire bouger, quoi. Le monde est fermé, quoi. C'est un monde fermé. Mais c'est dans ce monde-là que l'esprit vient, quoi.
Michel Kobig, je relis le verset 25 du chapitre 15 qui se situe juste avant le début du passage que nous lisons. Jésus parle de la détestation dont il a été l'objet lui-même. C'est pour que soit accomplie cette parole écrite dans leur loi, ils m'ont détesté sans raison. Voilà. Alors il cite là un psaume. Voilà. Jésus fait référence là aux autorités juives qui ne l'acceptent pas, c'est ça?
Oui, aux autorités juives, mais plus que ça encore. Il y a les autorités juives, c'est le contexte immédiat de ce passage, mais il s'adresse au lecteur, c'est-à-dire que dans la mesure où nous lisons ce texte-là, nous devenons un acteur du texte. Et donc quand Jésus dit ça, il s'adresse à nous. Nous aussi, nous faisons, il y a une part de nous qui ne veut pas, qui est dans ce refus-là. Et c'est ça que l'esprit vient subvertir, traverser. C'est à la fois le contexte historique de l'époque où est écrit ce texte, mais c'est aussi le contexte immédiat dans lequel nous le lisons, quoi.
Alors reprenons avec vous l'évangile de ce dimanche, verset par verset. Jésus parle donc à ses disciples, vous l'avez dit. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Donc après 8 versets sur la haine du monde, il est question de l'Esprit Saint qualifié de défenseur. Qu'est-ce que vous diriez sur ce mot défenseur?
C'est l'avocat, c'est celui qui donne le moyen de se défendre contre les attaques, qui donne le moyen de ne pas se laisser détruire par les attaques, par le refus, quoi. Il est celui qui vient apporter la vie dans un endroit qui est un endroit mortifère, quoi. C'est-à-dire, si lui n'est pas là, alors ça renvoie à cette opposition entre la chair et l'esprit qui est développée dans la deuxième lecture du dimanche de la Pentecôte avec l'épître aux Galates là, de saint Paul, où il montre l'opposition entre l'esprit et la chair et comment cette dissociation-là, c'est le fait du monde. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, il y a une opposition entre la chair et l'esprit qui fait que l'être humain, il est dissocié, quoi. Parce que ce qui constitue un être humain, c'est les deux. Un esprit sans chair, c'est un fantôme. Une chair sans esprit, c'est un cadavre, quoi. Et alors, là, l'esprit, il est défenseur au sens où il défend la vie reçue à l'origine, quoi. Il vient défendre la vie dont nous vivons, quoi.
Et il vient défendre l'unicité que vous venez de décrire, c'est-à-dire une union d'un corps, d'un esprit.
Il vient la défendre et la révéler en même temps. C'est-à-dire, il vient révéler ce qui, dès l'origine, nous constitue comme être humain, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, quoi.
Alors Jésus dit que lui-même enverra. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça fait allusion à la Pentecôte?
C'est que dans cet entretien d'adieu qui précède l'arrestation et le mouvement de la Passion, Jésus annonce non seulement son départ, mais aussi la résurrection. C'est-à-dire, il annonce que il les abandonne dans une relation selon la chair, mais il les retrouvera dans une relation selon l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit du Christ va venir habiter notre chair, soutenir sa vie, lui faire traverser la mort. Enfin, voilà, c'est l'esprit qui donne la vie, quoi. L'esprit qui fait vivre la chair.
Comme souvent chez Jean, le Père est cité, voilà. Et donc Jésus nous dit que l'esprit procède de lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a eu des batailles de théologiens là-dessus.
La procession, c'est le lieu d'origine, quoi. C'est-à-dire, il procède du Père. Le Père est révélé là comme l'origine de toute vie. C'est-à-dire, c'est le Père et les... Il faut deux témoins. Dans la Bible, il faut deux témoins pour qu'une vérité soit reconnue. Alors, pour reconnaître la vérité du Christ, de Jésus, comme fils du Père, il y a à la fois le témoignage du Père et le témoignage de l'Esprit. De même pour l'Esprit, le témoignage du Père est celui du Fils. De même, etc., quoi. Chacun des deux témoigne de la vérité du troisième. Alors, cette procession, là, c'est ce mouvement intime, relationnel, dans lequel chacun donne à l'autre tout ce qu'il est, quoi. Le Père donne au Fils tout ce qu'il est, l'Esprit donne au Père et au Fils tout ce qu'il est, etc. C'est ça, il procède du Père et du Fils, comme dit le symbole des apôtres, c'est-à-dire qu'il vient de l'origine, quoi. Il vient de l'origine de toute vie, quoi. S'il est originaire, cet Esprit, cette procession indique le lieu de l'origine et le lieu où nous revenons aussi, c'est-à-dire c'est notre origine à nous. Nous venons de là et nous retournons là comme le Fils, quoi.
Jean dit que l'esprit est un esprit de vérité.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il aide celui qui le reçoit à discerner ce qui est l'ordre de la vérité ou du mensonge.
Oui. Sans l'esprit, il est impossible de reconnaître la vérité. Il fait traverser le mensonge, quoi. C'est-à-dire, l'esprit, il révèle ce qui est là depuis le début, mais qui est dissimulé justement par le mensonge du monde, c'est-à-dire qui nous met uniquement dans la représentation, dans l'apparence, et qui nous met dans cette dissociation de la chair et de l'esprit qui fait que on ne voit plus la vérité. Elle nous est cachée. Et non seulement elle nous est cachée, mais elle nous devient inaccessible, c'est-à-dire on n'en veut pas. Alors, la révélation de la vérité, c'est la traversée du mensonge, parce que la seule manière d'accéder à la vérité, c'est de reconnaître qu'on est menteur. Et reconnaissant qu'on est menteur, on entre dans la vérité, et le mensonge s'efface, disparaît. Et c'est pas le mensonge qui se révèle, c'est la vérité qui se révèle dans la traversée du mensonge. C'est-à-dire, la disparition du mensonge révèle la vérité. Et c'est ça qui se passe, c'est que ce côté très mystérieux que, donnant la vie qui est la sienne, qu'il reçoit du Père et de l'Esprit, nous donnant ça tout entier, du coup, se révèle ce qui est là depuis l'origine, mais que nous avons refusé, parce qu'il y a en nous cette capacité de refuser la vie, quoi. Parce qu'on voudrait tous, plus ou moins, être à l'origine de notre propre vie. Nous ne sommes pas à l'origine de notre propre vie. C'est ça que l'Esprit nous révèle. Il nous protège de nous boucler sur cette fermeture-là qui nous tue, quoi, quand on la laisse faire.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Michel Kobig, Jésus, dans l'évangile de ce dimanche, dit que l'Esprit rend témoignage, il rendra témoignage en sa faveur. Donc, il signifie là que les disciples ne sont pas seuls et qu'ils seront assistés dans leur propre mission de témoin.
Oui, c'est ça, ils rentrent dans la Trinité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le Père témoigne du Fils et de l'Esprit, l'Esprit du Fils et du Père, etc. Eh bien, parce qu'ils sont avec lui depuis l'origine, les disciples, à leur tour, il leur est donné par l'Esprit d'entrer dans l'intimité du Christ, d'entrer dans l'intimité du cœur de Jésus, et du coup d'entrer dans l'intimité de la Trinité, quoi. Ils deviennent les témoins de cette union d'origine d'où nous venons tous, quoi. Ils sont les témoins de la vie, quoi. Ils répondent de la vie qui est en eux, en répondant de la vie du Christ, et du coup en répondant de la vie de chacun d'entre nous, quoi. Tu es vivant, quoi, voilà.
Et Jésus les encourage à prendre la parole, puisqu'il leur dit « Vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » C'est que ce que vous disiez, c'est que depuis l'origine, ils sont là. Alors c'est assez mystérieux.
Oui, parce que ça sort du temps. L'origine, elle n'est pas temporelle. L'origine, c'est le présent de chaque instant. C'est-à-dire que l'origine échappe au passé et à l'avenir. L'origine, c'est le présent dans lequel nous sommes, quoi. C'est-à-dire, à chaque instant, tout est donné, quoi. C'est ça qu'il s'agit de croire, parce que... c'est d'autant plus difficile à croire que nous en vivons de toute façon, quoi. C'est ça, la vérité tout entière qu'apporte l'Esprit, c'est la révélation de cet amour fou qui fait que, à chaque instant de notre vie, cette vie nous est donnée, comme depuis toujours, et qu'à chaque instant, si nous ouvrons à cette vie, eh bien, nous entrons dans le mystère de Dieu, quoi, dans le mystère de la création, dans le mystère de la Trinité, et nous ne sommes plus écrasés par le monde, mais nous sommes témoins que dans le monde est venue la vie qui traverse la mort, quoi. On est témoin de ça, mais alors ça veut dire que on traverse l'épreuve comme Jésus, quoi. Il va à sa passion, là, quand même, quand il dit ça.
Michel Kobig, nous commentons aujourd'hui l'évangile de Jean avec deux passages mis bout à bout. Nous venons de regarder les versets 26 et 27 du chapitre 15, et puis nous sautons 11 versets pour nous retrouver au chapitre 16, verset 12. C'est toujours Jésus qui parle à ses disciples lors de son discours d'adieu. Il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Alors, quelles sont ces choses que les disciples ne peuvent pas porter encore?
C'est ce qui va leur arriver. C'est-à-dire, c'est la passion dans laquelle, dans la mesure où ils sont unis au Christ, ils auront à suivre un chemin proche du sien, c'est-à-dire chacun sa passion. Jésus, il a sa propre passion, mais chacun d'eux, chacun de nous a sa propre passion. Et naître à nouveau, ça suppose d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre, de mourir à soi-même, quoi, de mourir à ce qu'on est, à ce qu'on rêve, à ce qu'on croit être, pour découvrir la vérité de ce qu'on est depuis toujours. C'est une épreuve, quoi. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on peut pas porter comme ça, quoi. Mais ce qui est visé là, par allusion, c'est ce qui va suivre les entretiens d'adieu, c'est la passion et ce qu'elle signifie pour chacun d'eux, pour chacun d'entre nous. Voilà. C'est seulement après la passion-résurrection que l'esprit pourra révéler la vérité de ce qui s'y est passé.
Donc ça veut dire que ce que je ne peux pas porter maintenant, c'est le lien de naissance pratiquement qu'il
Exactement.
Y a entre quelque chose de tragique et quelque chose de positif, mais je ne peux pas en saisir la portée
non.
tout de suite.
Non.
Il faut le vivre.
Et même quand c'est une expérience commune, ça quand même, on vit quelque chose de difficile, une épreuve, puis c'est que longtemps après, quand on en est sorti, que le sens de cette épreuve peut nous apparaître. Mais avant ça, on est dedans et on en bave et on ne sait pas ce qui se passe. Et on appelle à l'aide et au secours, comme Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné, quoi. Chaque disciple aura à vivre ça. Et ça, ils peuvent pas le porter à ce moment-là.
Mais il dit, Jésus, que c'est l'esprit de vérité qui va les conduire vers la compréhension de ce que ça signifie.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est, ils seront guidés par l'esprit vers l'accueil et du sens de ce qui se passe là dans leur propre passion et dans celle de Jésus. C'est-à-dire même du sens de ce qui se passe dans la passion du monde aujourd'hui, quoi. Toute cette folie de violence dont on parlait à la radio sans arrêt, le sens, c'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner le sens de cette affaire-là. Et ça, on ne peut pas le porter comme ça. C'est pas dans l'immédiateté, quoi. Ça demande du temps pour se révéler en nous, pour se dénouer, pour être accepté. C'est un chemin. Voilà. C'est pour ça, l'idée, être conduit, c'est bien traduit, ça. Être conduit vers la vérité, quoi. Tout entière.
Michel Kobig, Jésus continue à parler de l'esprit qui conduit vers la vérité tout entière. Il dit, en effet, ce qu'il dira, donc l'esprit, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira.
Oui.
Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc le rôle de l'esprit, c'est non seulement de défendre l'avocat, mais c'est aussi de transmettre.
Exactement. C'est même plus que ça. C'est pas seulement de défendre la vie, c'est de la donner, quoi. C'est de la transmettre. C'est de la. Comme il dit à un autre endroit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui fait vivre. Alors, l'esprit, c'est lui qui fait vivre la chair, quoi. Donc, on évoquait ça tout à l'heure, un peu plus haut. Mais de fait, c'est cette parole de l'esprit qui s'origine dans la parole qui unit le Père et le Fils. C'est cette parole-là qui devient la parole de l'Église, qui devient la parole de chacun d'entre nous dans la mesure où on entre dans la foi, qui est la parole de Dieu qui nous vient. Voilà, c'est l'Esprit nous donne ça, nous donne de parler la langue de Dieu, si j'ose dire, mais pas seulement pour nous, pour les autres, quoi. Dire voilà d'où je viens de ce pays où c'est le péché qui m'a et la mort qui m'ont habité et traversé, il m'a sorti de là. Et ben ce qui m'est arrivé, c'est pour vous aussi, quoi.
Jésus dit que l'Esprit le glorifiera.
Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce terme de gloire qu'on utilise beaucoup. Jean l'utilise beaucoup. Dans la liturgie, on l'utilise beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, la gloire? Michel Kobig.
Quand on chante à la messe, on a souvent ce chant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alors, on voit le ciel, on voit la terre, mais on ne voit pas la gloire. Parce que la gloire, c'est ce sans quoi il n'y aurait ni ciel ni terre. C'est ce qui fonde la présence du ciel et de la terre. Donc la gloire, c'est ce qui rend présent, c'est cette présence invisible qui rend présent le reste, quoi. Alors glorifier Jésus, c'est le rendre présent en nous, d'une autre manière, d'une autre présence que la présence charnelle dans laquelle ils ont été avec lui jusqu'à présent, les disciples, mais c'est le rendre présent à l'intérieur, à l'intime d'eux-mêmes, d'une présence spirituelle, disons, qui s'inscrit dans la chair, qui a des effets de joie, de libération, de charité, d'espérance, enfin voilà, c'est qui rend l'amour actif, pas seulement en parole, mais qui le rend actif. Voilà, ça c'est la présence, la glorification de Jésus, c'est sa présence invisible en nous Une bonne manière de parler de la gloire, c'est une image, c'est le vent dans les arbres. C'est-à-dire, on voit les arbres bouger, mais on voit pas le vent qui le fait bouger. Alors, on dit, tiens, il y a du vent, parce qu'on voit les arbres bouger. Et ben là, la gloire de Jésus, sa présence invisible, c'est, on voit des gens vivants, quoi. Ils sont vivants. Ils sont vivants, et ça témoigne de la présence invisible, vivante du Christ en eux.
Oui,
ça,
donc
c'est la gloire. Voilà.
C'est à l'opposé de la gloire mondaine.
Complètement.
Que généralement, on se donne à soi-même.
Ah, tout à fait. C'est complètement à l'opposé de la gloire mondaine. C'est-à-dire, c'est une présence qui ne se voit pas, justement, mais qui a des effets. Alors que la gloire mondaine, c'est la présence qu'on montre à tout le monde, quoi. Je veux dire, bon, il s'agit de se voir, de se faire voir. Là, il s'agit de se cacher, de se révéler plutôt, c'est-à-dire de se révéler dans ce qu'on fait.
C'est pour ça qu'on parle de gloire sur la croix chez Jean, c'est-à-dire que c'est une gloire qui n'apparaît absolument pas à nos yeux d'humains, justement, habitués à une gloire clinquante.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, la gloire de la croix, c'est la résurrection, c'est-à-dire, c'est le côté invisible de la croix. Sans cette gloire-là, il n'y aurait pas la croix. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la présence de la résurrection, s'il n'y avait pas le mouvement de la résurrection, il n'y aurait pas la croix non plus, quoi. C'est indissociable, quoi. C'est-à-dire, c'est l'effacement de tous les signes de la divinité. Dieu qui reste humain jusqu'au bout comme un homme, qui ne va pas se cacher dans sa divinité pour éviter la mort humaine, il va jusqu'au bout, il meurt comme un être humain sur la croix, comme un condamné. C'est ça qui révèle la gloire de Dieu. Voilà.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Lisons avec vous, Michel Kobik, la finale de l'évangile de ce dimanche. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Donc le Père, le Fils, l'Esprit, on en a déjà parlé, là c'est réaffirmé à la fin de cet évangile. Et il y a ce verbe connaître.
Ah, connaître.
Alors qu'est-ce que ça signifie au fond ?
Connaître, c'est aimer. C'est-à-dire dans la Bible, dans l'Évangile, connaître c'est aimer. C'est-à-dire on ne connaît vraiment que quand nous aimons, c'est-à-dire quand nous croyons sur parole quelqu'un. C'est-à-dire il y a un lien entre croire, aimer et connaître. Dans l'Évangile de Jean, en tout cas, c'est manifeste, quoi. C'est jamais l'un sans l'autre. Ne connaît que celui qui aime, n'aime que celui qui croit. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire c'est un appel là à la fois à croire sur parole, quoi. Parce que il s'en va, il va disparaître dans la passion, il ne va rester que sa parole, et donc croire sur parole que ce qu'il dit est vrai, et non sur des preuves tangibles, enfin bon, parce que si on a des preuves, on n'a plus besoin de croire. Mais alors là, il y a un appel à connaître intérieurement, quoi. Par exemple, dans la manière dont saint Ignace nous fait prier, il nous fait demander cette grâce-là quelquefois, il dit demander la grâce de connaître intérieurement le Christ. La connaissance intérieure du Christ. C'est-à-dire, c'est à la fois connaître son intérieur à lui, mais dans notre propre intérieur, et du coup, nous découvrir nous-mêmes dans la connaissance intérieure de lui, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours réciproque, quoi. C'est pas, je connais Jésus, et puis c'est bien. Non, mais le connaissant mieux, je me découvre moi, en vérité. Donc c'est vraiment, c'est de l'ordre d'une relation d'amour, quoi. Voilà.
Michel Kobik, nous avons pris le temps de lire verset après verset cet évangile. En quoi, selon vous, est-il bonne nouvelle pour nous aujourd'hui ? Quelle est la fine pointe de ce texte pour éclairer nos vies ?
La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que c'est impossible pour les disciples de porter la totalité de la révélation qui est faite là, mais de porter ce témoignage qui est à partager. C'est impossible de prendre le relais, de vraiment. Alors, du coup, comme c'est impossible, Jésus dit, mais il nous donne les moyens de le rendre possible. C'est-à-dire, il nous donne l'esprit, il nous réintroduit dans cette relation d'union intime avec lui pour recevoir la vérité tout entière, quoi. Et donc, c'est à l'appel, vraiment un appel, une bonne nouvelle au sens où il dit, au fond, oui, nous ne vivrons plus comme nous avons vécu pendant 3 ans sur les chemins de Galilée, etc. Bon, d'accord. Cette relation-là est terminée. Mais cela, cette séparation-là, cette disparition rend possible une autre union, une autre présence bien plus intime, bien plus forte, qui est la relation intime dans l'esprit, quoi. C'est-à-dire une relation cœur à cœur, dans l'intimité, et non plus une relation extérieure, quoi. C'est ma vie devient votre vie, voilà. Je vous donne ma vie et vous vivez de ma vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vivre la vie du Christ, on ne peut pas imaginer mieux. Quoi.
Oui, mais alors, où rencontrer l'esprit? Comment en faire l'expérience de cet esprit?
Dans la rencontre avec les autres. C'est-à-dire que c'est dans la rencontre avec vous, avec les gens du Châtelard, avec les gens qui viennent d'ici, et puis d'autres dans la rue, etc. C'est dans la rencontre d'autrui que je rencontre le Christ, parce qu'il est présent en chacun d'eux. C'est-à-dire, il est présent en vous, en moi et entre nous. Et c'est ça qui est la merveille à entendre, c'est que, à croire, à entendre et à vivre, c'est que ça a produit des effets. C'est-à-dire, quelqu'un qui est isolé à cause du confinement et qui ne voit plus personne, il meurt. Mais si quelqu'un vient le voir, lui parle, alors du coup, il se met à vivre à nouveau, quoi. C'est-à-dire que la vie, elle ne reste vivante que si elle est partagée dans la présence, quoi. Voilà.
Vous avez évoqué la Trinité, vous n'êtes pas rentré dans les détails parce qu'il y a eu beaucoup de conceptualisation autour de ça. C'est quand même une élaboration qui a été réalisée pendant l'Antiquité. Comment ça peut parler à nos contemporains aujourd'hui, très concrètement, ceux qui n'y comprennent rien à la théologie? La Trinité, pour monsieur et madame tout le monde.
Je veux dire un truc, moi. La Trinité, elle est incompréhensible. Et ce qui nous piège, c'est qu'on veut toujours se représenter mentalement, avec notre esprit, quelque chose qui n'est pas représentable. Et donc on se piège dans des images qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de vivre ce qu'elles disent. Alors Ignace, il a fait cette expérience magnifique d'avoir une révélation de la Trinité. Il la voyait sous la forme de trois touches, comme des touches d'un instrument de musique, et qui... quand ils jouent ensemble, ça produit une harmonie, quoi. Mais chacune a sa
propre note.
Voilà, sa propre note, mais ensemble, ça produit une harmonie. Et alors, ça, cette union-là dans la différence maintenue et respectée, cette union-là, c'est ce qu'on peut vivre dans une famille, quand même. Je veux dire, si c'est quelque chose de l'ordre de l'amour qui circule entre les trois, ça fait une note harmonieuse, ça fait une harmonie, ça fait une trinité, quoi. Voilà. Alors, et lui, il est au cœur de tout ça, quoi. Voilà. Alors, concrètement, c'est l'expérience humaine qui nous révèle la Trinité. C'est pas la conceptualisation qu'on en a pu faire. La Trinité, nous en vivons tous les jours, par la relation que nous avons les uns avec les autres. La Trinité, c'est la vie qui se donne de manière différenciée, sans écraser les différences. Voilà, c'est-à-dire, chacun est différent, cette différence est respectée, et on n'est pas dans la confusion, mais on est dans le respect mutuel, et c'est de là que peut naître la vie, quoi. La vie, elle naît de l'union des différences en tant que ce sont des différences respectées et non pas annulées, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez être absolument comme l'autre, l'étouffer, l'absorber, c'est fini, quoi. La vie ne peut plus circuler. Ce qui peut faire circuler la vie, c'est de maintenir la différence dans une relation de respect, quoi.
Merci à vous, Michel Kobik. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Jean, je le rappelle, chapitre 15. Versets 26 et 27, puis chapitre 16, versets 12 à 15.
Merci.